Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, cerca l'ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Totti! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci prova con il testo,
e la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le premier épisode de la troisième saison du podcast Calcio et Pépé. Et oui, nous sommes de retour pour une saison 3 comme votre série préférée de vos séries préférées sur Netflix ou sur une autre plateforme que vous voulez de votre choix. Vous en avez l'habitude, je suis bien sûr et toujours depuis le début et jusqu'à cette saison 3 en compagnie de Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour Ivan Crochet, bonjour les amis et amis ES. Un grand plaisir de te retrouver Johan.
Et oui.
Un grand plaisir de retrouver les auditrices et auditeurs pour ce millésime 2020-2021 de la Serie A et du football italien.
Ouais, qu'on espère un peu plus sympa hein, que le millésime 2019-2020, très particulier en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. Alors cette saison 2020-2021, elle s'inscrit un peu déjà sur la fin de la saison passée, avec des stades vides, avec des protocoles, vides ou presque vides, avec des protocoles très stricts, avec un football un petit peu différent de ce qu'on a connu jusque-là. Mais bon, on espère quand même voir du jeu, des beaux matchs, des révélations, des entraîneurs ambitieux, bref, le plein de belles choses qu'on pourra compter dans ce podcast Calcio et Pépé, qui en est donc à sa troisième saison. Guillaume, on s'est dit que pour ce premier épisode, eh ben, on allait évidemment parler de la première journée. Ça, c'est la base. On est content de revoir du football italien, même si on a eu quelques petits trucs un peu sympas en Coupe d'Europe, mais ça n'a pas duré très longtemps pour la majeure partie des clubs en Ligue des Champions. Et puis, on a quand même eu un c'est pas une épopée, mais une belle séquence européenne de l'Inter quand même en Europa League.
Oui, exact.
Qui a failli aller au bout, mais c'est peut-être pour faire encore mieux cette saison. Du coup, on s'intéresse à ces 7 premières rencontres de Serie A, puisqu'on le rappelle, les rencontres de l'Atalanta, les rencontres de l'Inter et puis le match aussi de l'Udinese ont tous été, puisque c'est le match contre Spezia qui a joué les playoffs et donc qui a joué les playoffs jusqu'à très tard dans le mois d'août, ont été repoussés au 30 septembre, milieu de semaine, donc 3 matchs pour ces équipes-là. Donc on va parler des 7 premiers évidemment et on a décidé qu'on n'allait pas faire match par match comme on avait un petit peu l'habitude de faire. Là pour cette première, on a décidé de rubriquer un petit peu nos observations pour essayer de faire un petit peu moins scolaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Guillaume, je commence, allez.
Envoie les hostilités.
Je me jette à l'eau et évidemment, je ne peux pas commencer la troisième saison de Calcio et Pépé sans parler de...
La VAR.
Non, non, on a non. Dit des choses sympas, Guillaume. On n'a pas dit qu'on allait se prendre la tête.
Oui, c'est vrai. Alors vas-y.
À ton avis, quelle équipe j'ai envie de mettre en valeur déjà dès cette première journée?
Je dirais il s'assoule.
Évidemment, ça ne vous surprendra pas. Mon petit plaisir du week-end, c'est Sassuolo, évidemment. Une prestation au final que je trouve assez aboutie malgré un match nul un partout contre le Cagliari de Di Francesco, qui était l'entraîneur avant de Zerbi à Sassuolo. Alors sur les stats, je fais un point rapide, mais on est sur 67% de possession, 33 tirs, 2,03 en XG, en expected goals. On est vraiment sur une prestation aboutie. Moi, ce que j'ai noté, c'est que contrairement à d'autres équipes, Sassuolo a peu changé. Donc les automatismes sont là. Tous les joueurs qui ont participé en finale à ce match étaient déjà là la saison passée. Bon, alors sauf le petit Ayan qui a joué une minute entré en toute fin de rencontre pour le dernier coup de pied arrêté de Sassuolo. Mais du coup, ça facilite un petit peu la reprise. Ça donne un peu les mêmes circuits préférentiels, la même construction de jeu, avec les mêmes automatismes, les mêmes joueurs en place. Donc tout ça a facilité un peu, je trouve, hein, le premier match de Sassuolo, qui n'est pas une victoire certes, mais qui a été vraiment une prestation intéressante. Et puis si je vais mettre en valeur un joueur dont on a peu parlé la saison dernière, c'est j'ai bien aimé la performance de Lucas Araslin, qui arrivait en janvier dernier, qui avait été prêté avec une obligation d'achat, qui a été donc levée cet été, et qui jusque-là avait fait des prestations... Bon, ni bonne ni mauvaise, on va dire assez neutre. Là, je trouve qu'il a été un vrai dynamiteur à gauche, en l'absence de Boga d'ailleurs, qui n'était pas convoqué parce que lui est toujours en phase de quarantaine, entre guillemets, de reprise suite à un test positif du Covid. Voilà, c'est un petit joueur assez technique, je l'ai trouvé très intéressant dans ses prises de balles, il a encore pas mal de déchets devant le but, parce qu'il a notamment une belle occasion où il envoie une grosse frappe du gauche largement au-dessus, alors qu'il aurait pu essayer de la placer un peu plus finement, entre guillemets. Mais voilà, c'est pour une première rencontre de la saison, j'ai trouvé que c'était une des prestations collectives les plus abouties que j'ai pu voir ce week-end, sachant que j'ai vu les 7 rencontres. Et puis, j'avais envie de mettre en avant le petit Raslin, à voir ce qu'il va donner, parce que ça dépendra aussi de l'avenir de Jérémy Boga, évidemment.
Moi, je te pose une question, oui. Johan, sur Sassuolo, parce que pour vous dire la vérité, pour ce qui te dit, j'ai pas pu voir le match. Mais la question que je me pose, c'est après une saison comme l'année dernière, où voilà, on a vu quand même une équipe qui était en net progrès malgré quelques carences défensives assez flagrantes. Ouais. Qu'est-ce que vise Sassuolo aujourd'hui? Est-ce que c'est l'Europa League? Est-ce que c'est un peu plus haut? Donc, bon, ce serait les 4 premiers, ça me paraît un peu juste. Mais aujourd'hui, ou est-ce que c'est toujours encore une amélioration à travers le jeu et prendre les matchs derrière les uns, tu vois, les uns derrière les autres, la fameuse langue de bois d'après-match. Ouais. Mais voilà, c'est quoi aujourd'hui l'objectif, selon toi, du Sassuolo de Deservi?
Bah, c'est un peu difficile parce que
ouais, hein.
Tu peux pas dire que tu joues l'Europa League quand t'es dans la position de Sassuolo aujourd'hui. Je veux dire, devant eux, ils ont la Juve, la Lazio, l'Inter, l'Atalanta, Milan, Naples, ouais, la Roma. Ça fait déjà 7 clubs. Tu peux te dire légitimement que la Fiorentina va peut-être pas faire une saison aussi catastrophique que la dernière, voire même l'avant-dernière. Donc tu peux rajouter aussi la Fiorentina dans ce groupe d'équipes, les 8 qu'on présente habituellement comme les 8 plus gros clubs, allez, on va dire, des années 2000, 2010, 2020. principalement, puisque la Samp était vraiment dans les années 90 à un niveau au-dessus, voire Parme aussi, mais c'est un peu différent ensuite. Donc voilà, t'as déjà 7 gros clubs devant toi, t'en as un 8e qui potentiellement peut revenir un peu à son meilleur niveau. Après, cette équipe de Sassuolo, il faut pas oublier qu'en 2015-2016 avec Di Francesco, elle fait 6e, et qu'au final, la saison dernière, qui est très belle, n'est même pas le record, le meilleur classement obtenu par Sassuolo. Puisqu'ils avaient fini 6e, ils avaient même disputé l'Europa League. Donc, que faire ? Moi, ce que j'ai aimé jusque-là, c'est que ils n'ont pas perdu de joueurs majeurs, contrairement aux autres années. Et ça, c'est pour moi, c'est une vraie progression, parce que encore, tu aurais pu dire, dans un état normal entre guillemets, c'est-à-dire sans la pandémie, garder tes meilleurs joueurs, c'est peut-être un peu plus facile. Là, comme tous les clubs italiens sont en difficulté, tu te dis, Sassuolo va être obligé de vendre aussi. Et pour le moment, ils l'ont pas fait. Alors qu'ils ont, comme l'année dernière avec Lirola, Demiral et puis Stefano Sensi, ils ont cette saison encore, je pense, au moins 2 joueurs qui peuvent aller dans quasiment tous les plus gros clubs italiens. Voilà, exactement. Après, derrière, tu peux discuter sur 1 ou 2 autres joueurs. Bon, Berardi, je suis toujours pas persuadé que ça sera un joueur de top club, même s'il a fait un bon match encore ce week-end.
Il progresse, mais j'ai l'impression qu'il manque toujours le cap, le fameux cap là, qu'il a du mal à passer, même sur une saison entière.
C'est
parce
ça.
Que le talent est là. Tu te rappelles, il y a un moment où il était un peu dans le giron de la nationale.
Évidemment.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a encore un step supplémentaire.
Et je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il en soit capable. Après, à sa décharge, on peut aussi dire que on n'est pas sûr qu'il puisse le passer à Sassuolo. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où est-ce qu'il peut faire encore mieux que ce qu'il fait actuellement à Sassuolo dans ce club-là ? Est-ce que pour passer ce cap, il faudrait pas aller ailleurs ? Et ça, c'est une vraie difficulté pour nous dans l'analyse, c'est qu'on peut pas le savoir. Mais oui, effectivement, on peut discuter encore sur Berardi éventuellement, mais il y en a surtout 2, c'est Locatelli et Boga. Et pour le moment, on enregistre ce podcast, on est le mardi 22 septembre, donc il reste moins de 2 semaines de mercato, et les 2 joueurs sont encore à Sassuolo. Donc ça, pour moi, c'est vraiment intéressant, et contrairement aux autres années, ils ne cèdent pas à tout prix. Je pense à Sensi et Demiral qui ont été vraiment, pour moi, je pense, sous-vendus. Là, Boga, ils sont restés fixes sur leur volonté d'avoir au moins 35 millions d'euros en fixe, hors bonus, sur ce joueur-là. Locatelli, ils sont fixés 25-30 millions d'euros aussi, et ils bougent pas pour l'instant. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et pour moi, ça va t'aider à faire une très bonne saison. Est-ce que tu pourras répéter une saison aussi forte que la saison dernière ? Je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils n'ont pas vendu de joueurs, qu'ils ont quasiment 2 joueurs par poste. À voir s'ils recrutent pour remplacer Marlon, qui a priori est en partance pour Fulham. Il faudra sans doute, je pense, hein, parce qu'ils ont vendu aussi Magnani à l'Hellas. Et il me semble qu'il y en a encore un autre qui est parti. Donc je pense qu'il faudrait vraiment un défenseur central. Mais à gauche, tu as 2 joueurs. À droite, tu as Toljan et Muldur. À gauche, donc, c'est Rogerio et Kyriadopoulos. Au milieu de terrain, t'as largement quoi faire. Locatelli, Bourabia, Obiang, qui on a encore, je dois en oublier. Sur le front offensif, tu as Berardi, Boga, Raspadori, Caputo, qui j'oublie encore. Je suis en train de checker. Djuricic, qui a pas été mauvais aussi, de son côté. Voilà, t'as des joueurs. Romagna est blessé, donc on verra quand il reviendra. T'as le petit Traoré aussi qui est là offensivement, à Raslin. Donc non, sur les postes milieu, attaque, latéraux, t'as 2 joueurs par poste, et ça c'est très bien. Défensivement, je pense qu'il faudra peut-être un petit peu se renforcer. Il y a Magnanelli évidemment au milieu que j'avais oublié, Defrel et Grégoire évidemment devant, et puis à voir ce qu'ils font de Scamacca. Ça pourrait être intéressant. Alors lui, c'est peut-être celui qui va partir pour faire un peu d'argent, parce qu'il a une belle cote, il est jeune, il a une belle cote, mais j'aurais bien aimé le voir en vice Caputo, tu vois, en remplaçant de Caputo. Ça peut être intéressant aussi de faire progresser un joueur comme ça, surtout avec De Zerbi. Donc voilà, je me rends compte que ça fait 10 minutes qu'on parle de Sassuolo, donc ça fait peut-être un peu beaucoup.
Et tu aimes ça.
J'aime ça, c'est vrai. Donc je te propose de passer à l'item suivant. Guillaume, de qui as-tu envie de nous parler ?
Écoute, moi j'ai envie de te parler. Alors j'ai intitulé cette catégorie, pardon, le comeback improbable.
Ouais.
Alors, le comeback improbable, et c'est un joueur que tu connais bien, c'est Mattia Destro.
Bien sûr.
Mattia Destro, dont la carrière, on va dire, ne porte pas une belle trajectoire. On avait beaucoup d'espoir en lui. Quand je dis nous, c'est le football italien, on va dire. Et c'est vrai qu'au fil du temps, on l'a un peu perdu de vue. Lui aussi, je pense, s'est perdu de vue. Et si tu regardes les stats, tu vois bien que ces dernières années, c'est compliqué parce qu'il a quasiment jamais franchi la barre des 10 buts. Il y a une fois, en 2016-2017 avec Bologne, où il en marque 11. Mais si tu veux, tu vois, son après c'est 6, après c'est 4. J'ai eu une saison à 8 buts en 2015-2016. Il avait fait une pige à Milan avec 3 buts. La Roma, il avait aussi une belle période où il marque 13 buts pendant une saison. Ouais, c'était peut-être d'ailleurs sa meilleure saison.
C'est avec, c'est avec Garcia, je crois, non? C'est quelle saison?
Ouais, il me semble. Hein, c'est la saison 2013-2014.
Ouais, c'est ça, c'est avec Garcia.
20 matchs, 13 buts. Donc, tu vois, le ratio était bon et c'est probablement c'est la meilleure saison de sa carrière en Serie A. Et c'est vrai que depuis, on a un joueur quand même qui se perd en route pour pas mal de problèmes, notamment aussi physiques. Et j'ai l'impression qu'il a aussi déconnecté un peu à un moment, même du football ou sur le terrain. Voilà, c'est comme s'il errait, en fait. On le voyait plus beaucoup. Et là, j'ai regardé, du coup, Genoa Crotone dimanche. Et écoute, j'ai vu un joueur. Alors, évidemment, c'est la première journée. On va pas tirer de points sur la comète parce que c'est un podcast qui pourrait sortir en fin de saison quand il sera transféré en Chine. Mais disons que, ouais, il s'est laissé pousser les cheveux. Alors voilà, moi, je suis très attaché à l'esthétique parce que je pense que ça dégage beaucoup aussi de ce que tu peux voir d'un joueur dans quelle période il est. Mais Destro, en tout cas, voilà, je l'ai vu dans ses mouvements, dans ses prises de balles, dans ses appels. J'ai vu un joueur qui avait envie, du moins, de revenir au niveau. Est-ce qu'il sera titulaire toute la saison de Genoa? Je sais pas, mais en tout cas, dans son attitude, en tout cas, je le vois beaucoup mieux. Et j'ai l'impression de voir un joueur qui a envie de se racheter. Il a 29 ans quand même, hein, Destro. Donc s'il veut, on va dire, donner une espèce de tournant à sa carrière, ou du moins revenir vers l'avant, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après, ça va être assez compliqué. Parce qu'il y a un joueur, on parle, qui a 8 sélections en Italie, donc c'est pas rien. C'est un joueur sur lequel on comptait, surtout qu'en Italie, et tu le sais autant que moi, Johan, c'est qu'on manque beaucoup d'attaquants. Ouais. Même si en national, t'as Immobilier qui était le soulier d'or l'année dernière, donc on va pas lui jeter la pierre, t'as Belotti, mais c'est vrai qu'il nous manque vraiment un titulaire fixe. Et alors, je dis pas que Destro le sera ou l'a été un jour, mais en tout cas, c'était un joueur, on va dire, qui est dans le giron de la nationale. Et aujourd'hui, voilà, on l'avait perdu, et voilà, je l'ai revu dimanche, ça m'a fait plaisir parce que c'est quand même un joueur à peu près apprécié partout, qui fait jamais trop de vagues, mais qui, comme je l'ai dit, c'était pas en route. Alors voilà, je te soumets la question, est-ce qu'on va revoir Destro à un niveau, on va dire, décent cette saison, ou c'est simplement, on va dire, un feu de paille pour la première journée? Alors, j'ai pas envie de m'emballer, tu vois. J'ai pas envie qu'on me remette ça dans la tête dans quelques mois, mais en tout cas, voilà, sur le premier match, en tout cas, à l'instant T, dans une culture de l'instant que toi et moi n'aime pas beaucoup, on peut juste dire que Destro, en tout cas, dimanche, a fait un bon match, il a marqué, il a tapé la barre. Donc voilà, on a rejoint Destro, on y va.
Eh ben, figure-toi que pour répondre à ta question, je vais lier cette question à une de mes rubriques.
Ah.
Qui était le cadeau du week-end, et c'est la défense de Crotone. Puisque, si le club est bien monté en Serie A, sa défense, elle est restée en Serie B, à l'échelon inférieur. Moi, j'ai trouvé que c'était d'une naïveté, incroyable, et ça m'a fait penser à, tu sais, quand Benevento est monté, il y a de ça quelques saisons.
Ouais.
D'ailleurs, De Zerbi avait remplacé, alors je me rappelle plus qui était l'entraîneur au début
de
saison.
Tu peux en parler aussi de Lecce l'année dernière, alors qui a fait une très bonne saison sur le plan du jeu, mais en défense, qui a pris 85 à 86 buts.
Ouais, 80, voilà, même, c'est 92, ouais, je crois, hein, ou un, quelque
ouais,
chose
on,
comme ça.
On était sur un record quand même, donc même si ouais. Lecce était très, très beau l'année dernière, mais, niveau défense.
Mais tu vois, la défense de Lecce était vraiment à la ramasse de manière, j'ai envie de dire, structurelle, dans le sens où cette équipe était dépassée défensivement.
Ouais.
Là, je trouve que Crotone, c'est de la naïveté pure sur des actions individuelles. Et ça, c'est un peu différent, je trouve, de l'organisation collective de Lecce qui était tout à fait, j'allais dire en faillite, voilà, pour faire un truc, mais qui était en grande difficulté. Si vous reprenez rien que les deux premiers buts, hein, du Genoa, pas besoin d'aller après. Sur le premier, la tentative d'interception à contre-temps de Mazzotta, hein, je la trouve incroyable. C'est vraiment, il faut revoir cette action. Et sur le deuxième but, l'alignement catastrophique de la défense côté droit. Un alignement comme ça en Serie A, c'est compliqué, hein. Si tu commences la première journée comme ça, contre une équipe du Genoa qui était ok en forme sur cette première rencontre, mais on se rappelle d'où elle vient la saison passée, cette équipe du Genoa, c'était quand même pas glorieux non plus. Voilà, moi ça me rappelle vraiment ce que j'avais vu de Benevento quand ils étaient montés en Serie A. Je me rappelle plus de la saison, mais c'était il y a 3-4 ans, ou 2 ou 3 ans d'ailleurs. Oui, peut-être plutôt 3 ou 4, puisque De Zerbi, ça fait sa troisième saison.
C'est quand le gardien de l'event, alors, contre
la Exactement.
Si je me souviens.
Oui, et puis c'est la dernière, c'est la saison où De Zerbi remplace en cours d'année, je sais plus qui, et après De Zerbi va à Sassuolo. Donc, étant donné que De Zerbi, c'est sa troisième saison, là, qu'il entame, a priori, c'était il y a 3 ou 4 ans, pour Benevento. Bref, tout ça pour dire que, effectivement, Destro a aussi su profiter, de la naïveté de la défense de Crotone. D'ailleurs, prestation très compliquée pour Lisandro Magalhães, qui arrive de l'Ajax, qui s'était pas imposé à l'Ajax, qui venait de Boca, je crois, de Boca Junior, qui avait été payé 10 millions d'euros de mémoire, qui ensuite a été prêté en Espagne, ça doit être à Alaves ou à Levante, je me rappelle plus, je crois que c'est à Alaves. Mais bon, là, comme tous les autres, hein, il est passé totalement à côté, donc à voir s'il arrivera à se relever un petit peu. Mais pour lui, c'est aussi une année très importante. Voilà pour l'item. Donc du coup, on a fait un double item pour parler de Genoa Crotone. Guillaume, ton item, ta rubrique suivante.
Écoute, moi, c'est une rubrique, on va dire, plus classique. C'est, on va dire, le joueur de la journée. Alors, ce sera pas très original, mais à 39 ans, enfin presque 39 ans, je pense qu'on, alors on doit le souligner quand même. C'est la performance de Ibrahimovic contre Bologne lundi soir. Alors, au-delà de ses buts, parce que bon, en soi, on est quasiment habitué au but de Zlatan depuis son retour à Milan, mais en tout cas dans le jeu et dans ce qu'il dégage, il y a vraiment un Milan avec et sans Ibra. Et moi, c'est vraiment ça que je retiens, c'est son influence dans le jeu, sa capacité. Il a apporté une chose qui est essentielle aujourd'hui pour le jeu du Milan. Tu me diras si tu es d'accord, c'est la capacité que Pioli, d'ailleurs, c'est un mérite qu'on peut lui donner. C'est qu'aujourd'hui, avec Ibrahimovic, tu peux varier le jeu long et le jeu court. C'est-à-dire qu'avec un joueur comme lui devant, et on l'a encore vu hier, on l'avait vu contre l'Atalanta l'année dernière, si je me rappelle bien, c'est que parfois, que ce soit Kjaer ou Gabbia ou Romagnoli, quand il est là, n'hésite pas à allonger sur Ibrahimovic. Pour qu'autour de lui, lui généralement évidemment gagne ses duels, que ce soit en pivot, en déviation, mais ça me rappelle aussi l'époque de Nocerino qui avait marqué 11 buts quand il était avec Ibra.
J'y ai pensé hier à ce fameux Nocerino. Hein.
ouais, c'est la version de sa carrière et c'était dingue ce que faisait Nocerino à l'époque, c'était fou. Et du coup, c'est vrai que quand tu regardes, il y a les latitudes des milieux de terrain, que ce soit par exemple Kessié, Bennacer. Et même les attaquants, les ailiers avec Rebic, Casillero, c'est que dès qu'il y a un ballon long sur Ibrahimovic, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent tout de suite la profondeur. C'est parce qu'ils savent que Ibra va gagner forcément son duel. Alors, c'est pas à tous les coups pareil, mais on va dire sur 3 cas sur 5, ils les gagnent. Et ben, ils prennent tout de suite la profondeur parce qu'ils savent qu'un joueur comme ça te fait gagner des matchs. Et c'est vrai que son influence, on l'a encore vu hier. Alors, les négociations étaient longues pour prolonger son contrat. Il a eu les 7 millions qu'il a réclamé. Mais Milan savait tellement son importance, voilà, qu'à la fin, Elliott, le propriétaire américain, fait un gros effort pour le conserver. Mais voilà, on devait aussi souligner parce que, bah, aussi, il nous manquait l'Inter, l'Inter, et il nous manquait l'Atalanta et d'autres. Mais c'est vrai que le joueur du week-end, celui qui dégage autant d'assurance, de charisme, qui prend le devant de la scène, c'est Ibra. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il a eu des journaux à peu près partout, éternel, inoxydable et autres adjectifs pour le qualifier. Mais c'est vrai que voilà, on peut compter sur lui. Et quand je vois Tonali hier après le match sur Sky qui dit, mais moi, c'est mon idole et on est obligé de donner le maximum avec lui parce que sinon, bah, il te réprimande et t'harcèle. Voilà, ça prouve toute l'influence qu'il a sur et en dehors le terrain. Donc, voilà, je pense qu'on va se régaler encore une fois cette saison avec Ibra. En espérant qu'il n'y ait pas de blessure ou autre, mais en tout cas, voilà, ça peut être sympa de revoir Ibra, surtout une saison, puisqu'il a fait 6 mois l'année dernière.
Alors, ça rejoint une de mes catégories. C'était les papis du week-end. Et dans les papis du week-end, j'ai mis Zlatan, évidemment. Et mon deuxième, c'est Salvatore Sirigu.
Oui, exact.
Voilà, on a pris le numéro 9 et le numéro 1, entre guillemets, les deux extrémités du terrain.
Deux anciens coéquipiers au PSG, d'ailleurs.
Exactement. Et Sirigu, qui a été excellent contre la Viola, qui n'a pas pu empêcher la défaite du Torino, mais deux fois face à Kwame, dont une fois, un arrêt extraordinaire. Vraiment, le ballon n'est pas rentré d'ailleurs. Pourquoi aller un centimètre, un demi-centimètre, avec on a vu ensuite avec la goal line technologie que ça s'était joué vraiment à pas grand chose, mais un arrêt, un plongeon sur le côté, sur une tête piquée incroyable. Ensuite, sur la une deuxième tête de Kwame, une reprise involontaire d'Ansaldi où il lève bien le bras alors qu'il est déjà à terre pour arrêter le ballon, pas loin du CSC donc pour Ansaldi. Et puis en fin de match, sur la frappe de Coutronnet aussi où il se détend bien. Il a fait un vrai bon match lui aussi, comme Ibrahimovic. Il faut souligner aussi ses trentenaires qui sont bons. Alors les gardiens, on sait qu'en Italie ils peuvent jouer jusqu'à 40 ans. On a quand même eu pas mal de d'exemples hein, tout au long de ouais. l'histoire de la Serie A. Sirigu a l'air d'être de ceux-là. Même ses 3-4 kilos de trop, il les porte bien finalement. Et puis Ibra, oui, à 39 ans bientôt, ça va être en novembre.
Ouais, le 3 octobre.
Ah, octobre, c'est ça. Ouais. Et ben, il a fait encore un très bon match. Effectivement, comme tu le dis, bon, en dehors d'un but sur penalty, et moi, ça, ce qui m'a fait rire, c'est le duel Danilo Ibrahimovic de la tête, les papis, le duel de papis. Ouais. Danilo qui ne saute d'ailleurs quasiment pas. Bon, face à Ibra, c'est quand même un peu une grosse erreur, mais il met une belle tête, bien piquée au ras du poteau et tout. Elle est magnifique cette tête. Et effectivement, dans le jeu, au-delà de ses buts, dans le jeu, il est important. Moi, je reviens sur ce que j'avais dit il y a 6 mois, je crois, et même ce que j'ai dit là il y a pas très longtemps sur AMC, c'est que Ibra, je l'avais d'ailleurs écrit, je crois, à l'époque c'était sur Grand Sport, il va aller mettre ses 15-20 buts par saison, ça il y a pas trop de doute. Après tu peux toujours tomber sur une année sans, hein, ça peut toujours exister, mais partout où il a passé, il les a mis ses 15-20 buts par saison, voire plus hein, dans certaines bonnes saisons. Le problème c'est pas tant ça pour moi. Ce que je trouve dommageable, c'est le fait de voir un club comme Milan miser sur un joueur de 39 ans, se coucher un peu devant lui. Tu parlais des exigences qui avaient été finalement celles d'Ibra hein, pour signer, c'était 7 millions d'euros par an, et il a fait traîner ça pendant un mois, je crois, à peu près, pendant cet été, c'était au mois de juillet-août, je crois, à peu près. Enfin,
c'était assez long, ça
sur les deux
semaines.
Mois, ouais, voilà. En gros, où Milan, à chaque fois, essayait de dire, bon, bah, on passe de 5 à 5 et demi, bon, bah, de 5 et demi à 6, et etc. Et en fait, ils ont plié devant les volontés d'Ibra, et moi, ça, je trouve ça un peu dommage, d'autant que tu retardes, en fait, l'échéance, c'est-à-dire que, dans une année où t'as encore le temps. Moi, je pense que, par exemple, Milan a encore un peu le temps, tu vois. Dans le sens où Maldini disait, bon, il faut absolument qu'on termine dans les 4 premiers. Moi, je pense qu'ils sont vraiment en retard par rapport à d'autres équipes qui sont, on va dire, amenées à être dans le top 4. Les 4 de l'année passée, par exemple. Avec l'incertitude de Lazio, tu vois, ils vont redécouvrir la Ligue des Champions. Bon, comment ça va se passer? Mais je me dis qu'ils auraient pu profiter de cette saison-là pour essayer... Bah, par exemple, tu vois, de mettre Leao en pointe, en disant tu l'as acheté quand même assez cher, ce joueur, il joue pas beaucoup. Je trouve ça dommage de repousser l'échéance d'un an en disant bon bah tu sais, c'est un peu comme on dit, on met les miettes et les poussières sous le tapis, et puis quand tu ressoulèves le tapis, tu dis ah bah mince, c'est vrai, il y avait déjà tout ça, tu vois. Et là c'est vraiment le truc, moi, qui me fait un peu tiquer dans le fait de dire t'es le Milan, tu mises encore à 38 et 39 ans sur un joueur comme Ibrahimovic, au-delà de tout ce qu'il peut apporter, c'est pas trop le sujet.
Et tu penses pas qu'il peut bonifier des joueurs comme Leao, comme Tonali, qui est arrivé, qui est quand même assez jeune? Tu vois, il y a quelques, on va dire, vieux de la vieille, comme Kier, comme Ibra. Voilà, c'est des joueurs qui peuvent encadrer aussi jeunes. Et je pense que Milan l'a aussi prolongé Ibra parce qu'ils savent la bonne influence qu'il peut avoir sur les jeunes. Un joueur comme Leao, par exemple, je ne sais pas si sans Ibra, il aurait réussi à se canaliser ou du moins à se concentrer uniquement sur le foot. Est-ce que tu ne penses pas que Maldini s'est dit, allez, encore une saison, parce que je pense que ça ne durera pas plus longtemps, encore une saison d'Ibra pour qu'il cadre tout ça et qu'il leur apporte son savoir-faire pour bonifier les Benacer, les Théo Hernandez. Alors Théo Hernandez qui est un peu plus âgé, mais voilà, Tonali qui vient d'arriver, Leao comme tu l'as dit. Enfin, voilà, il y a une base quand même assez solide, et Ibra avec ça peut-être pour bonifier le reste, justement pour apprendre la culture du travail, le degré d'exigence et autre chose.
C'est un point de vue qui s'entend tout à fait. Vraiment, c'est pas le mien, dans le sens où tu vois, Leao, à un moment donné,
oui,
okay, progresser aux côtés d'Ibra à l'entraînement, c'est bien, mais tous les joueurs que t'interroges, les jeunes joueurs, etc., ils te disent, à un moment donné, faut jouer aussi pour progresser. Et je suis pas persuadé que faire un an d'entraînement avec Ibra, ça va te faire progresser autant que de jouer 25, 30 matchs par saison, tu vois. Et c'est là-dessus où je me dis, bon, bah, Léo, il va entamer sa deuxième saison, il va être sur le banc, parce que clairement, bah, on l'a vu, hein, Ibrahimovic, il est important pour cette équipe, il marque des buts, donc, Léo, c'est pas un joueur de couloir gauche, comme il a été essayé plusieurs fois, moi, je trouve que c'est pas son poste, tu vas pas le faire jouer 10, tu vas pas le faire jouer ailier droit non plus, sachant que Milan a recruté aussi sur ces postes-là, parce que maintenant, il y a du monde aussi sur les côtés, hein, il y a Brahim Diaz, Casillero, Rebic, bon, il y a quand même un peu de monde aussi sur ces côtés-là, donc voilà. Après, c'est une question d'évaluation. Ce que tu dis, je l'entends tout à fait, hein.
Moi, je donne plus la version de toi. C'est même Maldini qui lui a justifié.
Bien sûr.
Dans le sens où il disait, moi, je veux pas. Et c'est pour ça qu'à un moment, ça a aussi un peu contrasté avec ses patrons, Elliott et Gadidis, qui eux veulent faire un peu comme à Lille, tu sais, où il y a vraiment, on achète, on revend, un vrai groupe de jeunes. Et Maldini a dit non, moi, je veux un vestiaire avec un mélange de jeunes et d'expérience. Parce que je pense que Maldini avait peur qu'avec un vestiaire uniquement de jeunes, le vestiaire s'effrite et parte un peu dans tous les sens. Et à Milan, on sait bien qu'il y a toujours eu quand même des vieux de la vieille comme des Costa Curta, comme des Gattuso, des Maldini et autres. Et je pense que si Ibra est venu, alors c'est vrai qu'il est dans l'extrême parce qu'il va arriver sur ses 40 ans, mais en tout cas Maldini l'avait justifié comme ça en disant moi je veux qu'Ibra reste, et Pioli aussi d'ailleurs, hein, c'était pas le seul Maldini, mais pour bonifier vraiment voilà le reste des jeunes à fort potentiel, comme tu l'as dit, Léo. Mais à un moment, c'est vrai aussi, des joueurs comme ça, il leur faut du temps de jeu. Après, si tu as l'Europa League, que Milan arrive à se qualifier, pourquoi pas parfois faire reposer.
Attention
les bras
à ce que tu dis, Guillaume, si tu me sors le truc de il faut mettre les remplaçants en Europa League,
non,
on va pas être copains.
Un joueur comme Léo, par exemple, peut très bien être titulaire en Europa League. Ce serait pas scandaleux. Surtout qu'Ibrahimovic, même si lui joue tous les matchs, il y a bien un moment où
il y a ça aussi qui
se repose.
Ouais, mais regarde, je fais juste un parallèle rapide, après on changera d'item, mais tu sais, Pirlo a dit après le match là contre la Samp, quelque chose que Sarri avait dit déjà l'année dernière en tout début de saison. Oui, bah Ronaldo, de toute façon, il connaît bien son corps, il sait très bien, il est intelligent, que il va falloir qu'il se repose. Bon, au final, on a vu que sous Sarri, Ronaldo, il jouait tous les matchs. Et je suis pas persuadé que Pirlo réussira à faire comprendre à Ronaldo, qui est en quête de record personnel en permanence, qu'il faut aussi se reposer. Et c'est un peu la même chose avec Ibra. Quand t'as un joueur de ce calibre-là, qui pour moi dépasse l'entraîneur aujourd'hui, dans le cadre de l'AC Milan, bah, je suis pas sûr que Pioli, tu vois, il insiste beaucoup pour le mettre sur le banc. Après, je peux me tromper, hein. On verra l'usage, hein. Mais comme ça, tu vois, je me dis bon, t'es Pioli, est-ce que tu vas vraiment t'agacer et réclamer à Ibra d'aller sur le banc? Je sais pas.
Ce qui est sûr, c'est qu'Ibrahimovic aujourd'hui, on va dire, est quasiment le bras droit de Pioli sur le terrain. Et on va se dire la vérité, sans Ibrahimovic l'année dernière, c'est arrivé. On rappelle que le premier match pré-Ibra, c'est un 5-0 contre l'Atalanta. Je suis pas sûr que Milan fait la saison qu'il fait post-confinement, parce qu'Ibrahimovic est déterminant, même s'il y a l'explosion de Rebic et d'autres. Mais Ibrahimovic est tellement, on va dire, important et influent dans cette équipe, que je sais pas si aujourd'hui Pioli sera encore l'entraîneur du Milan, et si Milan aurait réussi ce qu'il a fait l'année dernière. Donc, voilà, il y a un mélange de choses, mais comme tu l'as dit, il y a des joueurs aussi qui devront avoir du temps de jeu, parce que les former et leur apprendre plein de choses, c'est bien. Le terrain, c'est autre chose. Et après, évoluer à côté d'Ibra, je suis certain que pour des joueurs, ça peut être aussi important. Donc, voilà, il y a plusieurs choses. Mais par exemple, l'achat de Tonali, tu vois, peut rassurer aussi, dans le sens où Milan vise quand même des jeunes joueurs. Et Tonali, il a aussi l'avantage d'être italien et d'avoir un gros potentiel. Donc, je pense qu'il y a un projet qui s'installe à Milan qui est assez intéressant, du moins, avec Maldini à sa tête. Un jour, on parlera peut-être aussi du travail qu'a fait Maldini, qui est quand même pas trop mal sur le papier, et un peu de stabilité, parfois fait pas de mal, ce que Milan avait du mal à faire c'est pas vrai.
On passe à la rubrique suivante, et c'est
Allez.
Pour moi la boulette du week-end, et on va parler de la Roma et d'Amadou Diawara. Voilà, c'est quand même quelque chose
fallait que t'en parles.
c'est quand même assez incroyable à ce niveau-là.
De l'amateurisme.
Ouais, c'est de l'amateurisme le plus total, le plus complet. Je rappel des faits, comme on dit dans Faites entrer l'accusé. Non, j'en sais rien, parce que en fait, je ne regarde pas cette émission. Donc, c'est histoire de faire.
Tu n'as pas la veste en cuir de Christian.
Non, non, du tout. Alors, pour rappeler un peu l'histoire, Amadou Diawara était donc titulaire avec la Roma sur la pelouse de l'Hellas Vérone, match nul 0-0. Problème, la Roma ne l'avait pas inscrit dans la liste des 25 joueurs pour disputer le championnat auprès de la Lega Calcio, enfin la Lega Serie A, pardon, maintenant. Sachant que l'année dernière il y avait un système, il existe encore cette saison mais les modalités ont changé, tous les joueurs de plus de 22 ans devaient être dans cette liste de 25 joueurs enregistrés, et puis l'année dernière il existait une deuxième liste, celle des moins de 22 ans, voilà, et cette saison la liste des moins de 22 ans n'existe plus, mais on considère que tous les joueurs de moins de 22 ans n'ont pas besoin d'être inscrits et ils peuvent jouer n'importe quand. Le problème, c'est que Diawara avait 22 ans la saison passée, donc ça marchait. Il a eu 23 ans en juillet, et la Roma n'a pas vu le changement. Et n'a donc pas inscrit dans la liste obligatoire des 25 joueurs de plus de 22 ans Amadou Diawara, mais l'a fait jouer. Résultat, il y a un problème de règlement, puisque le règlement dit que ce n'est pas possible, et qu'en cas de cas comme ça, entre guillemets, eh bien l'équipe qui fait cette erreur perd sur tapis vert 3-0 le match. Voilà, la Roma peut passer d'un 0-0 qui était déjà pas fou, voire même incroyable, sur la pelouse de l'Hellas Verona, qui en plus avait pas mal d'absents et de blessés, à une défaite 3-0. Voilà, on verra si le règlement est appliqué sévèrement ou pas. Si oui, ce sera défaite tapis vert. Sinon, sachant que le club est prêt à plaider sa bonne foi. Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est que la Roma n'avait enregistré que 21 joueurs sur 25. Donc, il y avait tout à fait des places disponibles pour enregistrer Diawara, et c'était pas une volonté de contourner le règlement ou ce genre de choses-là. Le deuxième, c'est que... alors, je sais plus quel journal en parle ce matin, parce que j'en ai lu tellement, c'est que... on évoque un coup de téléphone entre... bah, je crois que c'est la Gazzetta dello Sport, d'ailleurs. Un coup de téléphone entre la Lega et la Roma samedi, où la Roma aurait obtenu, de la part de quelqu'un à la Ligue, de pouvoir aligner Diawara, même s'il n'était pas, pour cette fois, mis dans la liste des 25. Donc, nous verrons ce qu'il en est. Mais toujours est-il que ça peut coûter cher à la Roma, parce qu'un point est un point, surtout en Italie. Et d'ailleurs, le secrétaire général du club a démissionné suite à cette erreur. Et ça pourrait ne pas être le seul. Tu rajoutes un truc là-dessus ?
Bah écoute, rapidement, sur le papier, comme tu l'as dit, c'est une erreur, on va dire, de bonne foi, puisque il restait 4 places, 4 slots où Diawara aurait pu être inscrit. Dans les faits, si on prend le règlement AS, c'est évidemment une erreur qui n'est pas concevable à ce niveau-là. On parle d'un championnat professionnel, on parle de la Serie A, on parle de la Roma.
Avec combien d'employés du secteur sportif?
Voilà, c'est quand même assez absurde et aberrant à ce niveau-là. Donc voilà, on en a parlé tout à l'heure un peu en off, on va spoiler ce qu'on a dit. Moi, j'ai envie de croire que voilà, peut-être que le bon sens l'emportera, mais c'est évident que si on n'a plus le règlement à la lettre, il y aura tapis vert et 3-0, et ça serait vraiment une drôle de façon de dire bonjour à Friedkin, qui est nouveau propriétaire de la Roma, qui était en tribune, si je ne m'abuse, ouais. Samedi soir.
Les deux étaient là, ouais.
Voilà, donc c'est une erreur très bête qui pourrait coûter cher, et tu sais, on sait jamais, mais imaginons la Roma perd son tapis vert et à la fin de la saison, il te manque 2 points pour être sur le podium ou qualifier avec les champions. Bon, ce sera assez bête, mais c'est vrai que c'est une histoire qu'on se rappellera dans les prochaines années, prochaines saisons, tellement c'est bête et absurde.
C'est ça. Et tu me permets, j'enchaîne avec un item qui est lié à ce match-là. Après,
allez,
je te laisserai la parole.
Bah, j'en ai un aussi, si tu veux.
Ah, d'accord. Bon, bah, écoute, le coaching incompréhensible du week-end, Paulo Fonseca, du côté de la Roma. Alors il y a des choix discutables, c'est pas tant sur l'équipe au départ, on va dire, c'est plutôt
c'est
en cours de match,
jeu,
voilà, bah, tu sais que j'en ai déjà parlé dans ce podcast plus d'une fois.
Ouais.
Moi je
ne comprends pas.
Bah non, lors de plein de matchs les changements effectués pas quand c'est du poste pour poste, en plus quand c'est des changements de poste, quand c'est un choix offensif, un choix défensif. ou même parfois du poste pour poste. Hein, je me rappelle plus. Je me souviens d'un match comme ça où il avait sorti, c'était en fin de saison dernière, un des meilleurs joueurs du match en faisant un poste pour poste avec un autre joueur. Je me suis dit, mais comment tu peux sortir le seul joueur qui t'amène un plus dans la construction offensive. Je me rappelle plus, il faudrait que je recherche, mais voilà. Donc c'est pas la première fois. Moi, ça me gêne vraiment parce que ce match-là, typiquement, alors si la Roma l'avait gagné, peut-être qu'au final il y aurait eu tapis vert derrière, donc ça aurait pas changé grand-chose. Mais en tout cas, ça aurait peut-être rassuré un peu l'écosystème romain, hein, on va dire ça comme ça. Mais par exemple, Pedro et Mkhitaryan qui à partir de la 55e minute, vraiment, ils perdaient tous leurs ballons dans des zones parfois dangereuses qui offraient des transitions rapides au club de Vérone. Ils ne parvenaient plus offensivement à faire la différence. Ils n'avaient plus de gaz pour défendre non plus. Il les a laissés jusqu'au bout. Moi, ça me pose un vrai problème parce que sur le banc, t'avais quand même Justin Kluivert, Carles Pérez et Dean Dzeko. Alors, au-delà du cas Dzeko qui est très particulier, qui a passé son temps, enfin son match sur le banc, qui n'a pas joué, Fonseca dit que c'était pour le protéger, mais à ce moment-là, pourquoi le convoquer si tu pars du principe que dès le départ il ne jouera pas? À la limite, autant mettre un jeune, hein, ça te fera au moins une solution en plus. Là, tu le prends, mais t'as pas de solution de le faire rentrer, donc tu perds une solution en cours de match. Donc ça, c'est un peu à part, mais il y avait quand même d'autres solutions. Tu pouvais faire jouer Villar un peu plus haut. Enfin bref, voilà, il y a des vraies interrogations. Avant la 82e minute, alors que l'équipe en deuxième mi-temps est vraiment dans le dur physiquement. La première mi-temps est très intéressante, la deuxième est catastrophique. L'équipe est vraiment dans le dur, et avant la 82e minute, son seul changement, il est forcé par un pépin physique de Karsdorp. Et du coup, c'est David Santon qui entre. Mais sinon, avant la 82e minute, il ne faisait pas de changement. Alors que l'équipe est à bout de souffle, et ça, tout le monde, enfin je veux dire, toute personne qui était devant le match ne pouvait que voir ça, quoi. Je veux dire, c'était flagrant, ça sautait aux yeux que l'Hellas montait en puissance physiquement, qu'il les mangeait au milieu de terrain, qu'il les mangeait sur les côtés, qu'il y avait beaucoup moins d'implication dans le travail défensif parce que les joueurs étaient exsangues et voilà. Donc
Mais tu sais, c'est vraiment une qualité que beaucoup d'entraîneurs n'ont pas, hein. Alors loin de moi l'idée de donner le son aux entraîneurs parce qu'ils sont bien plus sûr positionnés.
Ouais, ça c'est vrai.
Mais en tout cas, il y a plein d'entraîneurs.
On le répète, hein, Guillaume, c'est juste nos observations. C'est pas
exactement,
une question de donner des leçons.
Évidemment. Tu vois, moi le coach, enfin, du moins l'un des entraîneurs qui pour moi a l'une des meilleures lectures du jeu, tu me diras si tu es d'accord, c'est Max Allegri.
Oui, bien sûr.
Max Allegri en cours de jeu, je me rappelle un match à Tottenham, et les tifosi de la Juve s'en rappellent aussi. Quand il change le match avec un double changement, voilà, pour moi Max Allegri était quasiment la des meilleures en circulation dans la lecture du jeu, mais c'est vraiment une qualité que certains coachs n'ont pas et peinent à avoir, et tu le vois souvent aussi voilà dans les journaux ou dans certaines critiques constructives sur Twitter, où certains tifosi de certaines équipes peinent à comprendre le coaching de leur entraîneur, tant pour le timing comme tu as dit des remplacements, surtout qu'aujourd'hui tu en as 5. Donc, tu pourrais te dire, bon, pour une première journée, les joueurs, voilà, vont se mettre doucement dans le rythme. Si t'as au moins un peu de remplacement sur le banc, tu peux faire des changements, on va dire, un peu avant l'heure de jeu ou après. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la lecture du jeu, c'est vraiment un aspect qui serait même intéressant de développer avec un ou deux spécialistes, pardon. Mais voilà, Fonseca, c'est pas la première fois que tu le dis. Et alors moi j'ai vu un large résumé du match de la Roma, mais en tout cas de ce que j'ai vu même le lendemain, le dimanche dans les journaux, même dans les journaux romains, voilà, Fonseca. Alors tu sais qu'on n'en parle pas, on dit pas qu'il est sur la sellette, mais en tout cas avec le changement de propriétaire, bon, il aura pas beaucoup le droit à l'erreur, on va dire, cette saison, parce que on sait toujours quand on a des nouveaux propriétaires, ils aiment généralement arriver avec leurs hommes et placer leurs hommes à telle position. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Fonseca se retrouve avec des nouveaux propriétaires, des nouveaux patrons. Et voilà, lui aussi doit prouver qu'il est à la hauteur du challenge de la Roma. Et après une saison comme l'année dernière où tu te qualifies pas en Ligue des Champions, cette saison, il devra être à la hauteur.
Mais tu vois, juste pour boucler là-dessus, si tu le changes au bout de 3-4 journées, ce sera déjà une première erreur.
Évidemment.
Parce que le changement, soit tu le faisais cet été, sachant que tu avais des possibilités. On peut parler d'Allegri, on peut parler de Rangnick, puisqu'il y a eu des rencontres aussi cet été avec Rangnick. Mais le faire au bout de 3-4 journées, t'as perdu du temps déjà et c'est idiot en fait. Donc parce que l'entraîneur aura pas eu les joueurs qu'il voulait sur le mercato, enfin pour mille raisons en fait. Et tu sais très bien que à la Roma, ça peut se passer comme ça. Hein. Combien d'entraîneurs ont été débarqués au bout de 3 ou 4 journées, y en a plusieurs. Donc il faudra voir ce que ça va donner. Mais je suis pas hyper confiant pour la saison de la Roma qui me paraît un peu compliqué. item suivant, du coup, lié à ce match, hein, tu m'avais dit.
Ouais, rapidement quand même, c'est le presque but du week-end. Tu sais bien de qui je vais parler dans ce match, c'est cette frappe de Spinazzola, face à cette reprise assez dingue. Alors je sais pas, il était à combien de mètres, 30, 35.
Un peu moins, non, il était à 25 mètres, je crois.
Ah ouais, 25. Ouais. Une frappe assez dingue. Qui aurait déjà pu postuler dans le classement des plus beaux buts de l'année. Mais voilà, c'est vraiment une action. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est incroyable de la retrouver facilement sur Twitter ou sur YouTube. Mais c'est vrai que c'est ce genre de but, enfin, du moins, c'est ce genre de presque but que tu regrettes parce que, évidemment, c'est une action qui va rapidement tomber aux oubliettes alors que ça aurait pu être l'une des actions de l'année. Voilà, moi, je voulais quand même souligner pour pas qu'on oublie l'ami Spinazzola. Voilà, c'est ce magnifique presque but. Je suis assez fier de sa catégorie. Je pense que chaque week-end, elle pourrait être alimentée assez facilement. Mais voilà, c'est ce presque but de Spinazzola que je voulais souligner.
Et alors, pour ceux qui veulent voir l'image, j'ai sorti un clip de cette action et d'une autre action, parce qu'il y a eu deux presque buts magnifiques dans ce match-là. L'autre, c'est Di Marco. Une espèce de petit ballon fouetté qui fait barre transversale poteau et qui lobe Mirante, qui est aussi magnifique. Ouais. Donc allez sur Twitter, vous verrez.
C'est l'image des poteaux.
Ouais, exactement. J'ai sorti le clip. Les deux actions sont très très belles. Guillaume, je te laisse la main sur une rubrique suivante.
Bah écoute, tu peux y aller si tu veux. Hein. Alors, j'en ai déjà donné pas mal. Je peux te laisser. Alors, je sais que tu m'as dit en amont que tu en avais beaucoup.
Ouais, bah en fait, j'ai vu tous les matchs, donc du coup, j'ai pas mal
tu t'es régalé.
De rubriques. Ouais, bah toujours en début de saison, on regarde, on mange beaucoup de matchs. J'ai l'entrée qui a presque tout changé. C'est Victor Osimhen. Ouais. Alors, j'ai mis presque parce qu'il faut être honnête et il y a une précision qui est importante à faire pour avoir le contexte précis et pas simplement lire la feuille de match ou un ou deux petits tweets, voilà. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que les deux buts napolitains ont été marqués sur deux cadeaux de la défense de Parme. Le premier, c'est le dégagement plein axe dans la surface, à 10 mètres du but de Jacopony. Le deuxième, c'est la relance totalement ratée, et what the fuck même, de Jacopony, encore lui malheureusement, qui envoie Lozano au but avant qu'Insigne finalement ne pousse le ballon au fond. Ça, c'est important de le dire parce que l'entrée d'Osimhen, elle arrive à un moment où Naples va marquer et où Parme va laisser plus d'espace. Et donc, il y a un lien de cause à effet. C'est pas simplement l'entrée d'Osimhen qui a tout changé. C'est pour ça que j'ai mis l'entrée qui a presque tout changé. Osimhen fait une bonne entrée, mais c'est parce qu'il a aussi plus d'espace, parce que Parme doit se découvrir pour tenter d'aller égaliser, ensuite pour tenter de réduire le score. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, quand il y a des espaces, Osimhen se régale. Je l'ai trouvé également bon dans une phase de ou dans un aspect technique qui est pas forcément celui qu'on remarque le plus chez Osimhen, c'est son jeu en remise. Il fait notamment une talonnade pour Insigne qui envoie une belle frappe sur le poteau en première intention. Ça montre aussi que les joueurs napolitains vont peut-être pouvoir combiner dans les petits espaces avec Osimhen. Et d'ailleurs, on voit assez facilement, je trouve, la complémentarité à venir avec des joueurs comme Insigne, Mertens et même Lozano. Alors, c'est des profils un peu différents. Autant Insigne et Mertens peuvent se ressembler, autant Lozano est un joueur totalement différent qui, lui aussi, aime bien les espaces et qui est plus sur la rapidité, sur la qualité d'accélération, qui va permettre de centrer, avoir un vrai numéro 9 devant. Ça peut aider aussi un joueur comme Osimhen. Insigne Mertens, c'est plus pour de la combinaison, de l'appui remise, ce genre de choses-là, d'envoyer Osimhen lancer en profondeur. Mais on voit une vraie... Ouais, je comprends le recrutement d'Osimhen par Naples parce que je vois l'idée qui se dégage derrière cette arrivée-là et toutes les possibilités que ça donne à cette équipe de Naples qui peut choisir soit une attaque légère, tu sais, la fameuse attaque légère, comme on aime bien dire en Italie à propos de Naples, avec Insigne, Mertens et Lozano ou Politano, après ça c'est à décider un petit peu, et puis soit avoir un vrai numéro 9 avec ce fameux trident derrière. Mais là, dans ce cas-là, il faut deux milieux de terrain qui sont vraiment très travailleurs, et on peut imaginer Demeux, Fabien Ruiz, plus qu'un Zelinski qui est un peu moins, on va dire, discipliné tactiquement. Mais voilà, Osimhen a fait une très bonne entrée, mais c'est aussi lié à la physionomie du match, et c'est important de le préciser. Est-ce que tu as encore une catégorie, Guillaume, ou
oui,
j'enchaîne?
Vas-y. J'en ai une dernière, si tu veux. C'est la sortie du week-end qui m'a fait assez rire. C'est Mianovic, après le Milan-Bologne de lundi soir, qui a dit, en gros, maudit celui qui a lancé la carte de Donnarumma. Évidemment, celui qui a lancé la carte de Donnarumma, c'est lui.
Il le connaît bien, c'est lui-même.
Voilà, un après-midi de Milan-Sassuolo, un dimanche, si je me souviens bien. Et c'est vrai que Mianovic, voilà, c'est quand même lui qui a osé, à l'époque, sortir ce gamin de 16 ans, qui aujourd'hui a bien grandi et qui est titulaire de la nationale. Et voilà, ça m'a fait assez sourire que Mianovic, souvent on rigole, parce que il le disait lui-même hier, enfin on enregistre mardi, donc hier lundi, il disait que Donnarumma, quand il joue les équipes de Mianovic, généralement fait des gros matchs. Il rappelle notamment le penalty arrêté lors d'un Milan Torino il y a quelques années en ouverture, où le Torino aurait pu égaliser à la 93e et Belotti se fait arrêter le penalty par Donnarumma. Il y a ce cadrage après sur Mianovic qui a un grand sourire assez ironique en disant, mais c'est pas vrai, pourquoi j'ai lancé. C'est vrai qu'il l'a rappelé. Et ça m'a fait assez sourire, mais en tout cas, voilà, Mianovic, la sortie du week-end qui était assez drôle pour Donnarumma.
Tiens, ça me fait penser, c'est pas une catégorie, hein, mais juste un truc sur Mihailovic. Lors de la reprise, il avait beaucoup allumé Orsolini, notamment Svanberg et Barrault sur certains matchs. Là, avant le match, il en a remis une couche sur Orsolini,
oui.
qui avait fait d'ailleurs une interview, je crois, soit à la Gazzetta, il me semble. Ou à Tutto Sport, je sais plus, pour expliquer que Mihailovic était dur avec lui, mais qu'il comprenait, qu'il fallait qu'il s'améliore, etc. Et quand j'ai vu la prestation d'Orsolini là, à Milan, où il a à peu près, mais vraiment, hein, tout raté, ce qu'il a tenté, même des contrôles, même des conduites de balles, etc. Je me dis que à force de pointer du doigt médiatiquement Orsolini,
trop taper dessus.
Ouais, il va falloir faire attention à pas le perdre non plus, Orsolini, parce que c'est un atout très important de Bologne.
L'un des joueurs les plus techniques.
Exactement. Et je pense que le management à base de bâtons sans carottes, il va falloir faire attention, parce que là, déjà post-Covid, il y avait des, on va dire sur les 6-7 dernières journées, il y avait des choses, des signaux important, inquiétant chez Orsolini. Là, le premier match est très inquiétant aussi. Donc, je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Ou en tout cas, peut-être que, après, encore une fois, hein, c'est juste une observation. Mihailovic est mieux placé pour savoir, puisqu'il le côtoie au quotidien. Mais en tout cas, ça porte pas vraiment ses fruits pour le moment. Et c'est vraiment un atout majeur, hein, dans la ligne d'attaque de Bologne. Donc, à voir. J'ai une dernière rubrique, Guillaume.
Ouais.
On n'a pas parlé encore de ce club, du champion en titre, donc évidemment.
Oui, c'est vrai.
La première remarquée du week-end, c'est évidemment la Juve de Pirlo. Alors moi, j'étais très curieux sur une seule chose, bizarrement. C'était pas forcément sur l'aspect avec ballon de la Juve, la construction, etc. Même s'il y avait plein de problèmes la saison dernière là-dessus, et donc il y a des choses qui seront à voir. Moi, j'attendais vraiment cette équipe de la Juve sur... le caractère, la discipline, l'organisation défensive et le pressing. Et là-dessus, j'ai pas été déçu. On sait que les phases sans ballon, ça a été un des soucis majeurs de cette équipe-là la saison passée sous Sarri. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vu du pressing en bloc de cette équipe, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Ce qu'on a vu, c'est des joueurs offensifs qui participent au pressing, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Alors pas trop Ronaldo. Encore que, mais plutôt Kulusevski et Ramsey. J'ai bien aimé une équipe qui était positionnée assez haut sur le terrain, moins d'espace entre les lignes que la saison passée également. Dans cet aspect-là, j'ai beaucoup aimé les matchs de McKennie et Rabiot, qui ont été très bons pour aller mettre la pression, pour forcer la Samp à jouer compliqué et donc à perdre le ballon, parce que voilà, il n'y a pas des joueurs incroyables dans cette équipe. Et puis en plus, quand l'état d'esprit n'y est pas, et d'ailleurs Ranieri était très très en colère, hein, après le match, colère froide, mais sur la prestation de son équipe, et notamment sur le plan de la personnalité, de l'engagement, de l'investissement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé McKennie, son activité, son agressivité me plaisent beaucoup. La question que j'ai sur, tu vois, McKenny, Rabiot et Kulusevski, au final, qui font tous un très bon match, qui avait été déjà été très bon contre Novara, c'est qu'un match amical, mais contre une petite équipe, blablabla, tout le contexte habituel. Mais je me dis, quand la Juve aura pris son neuf, c'est-à-dire Morata, quand la Juve aura Dybala qui sera de retour, quand la Juve aura Arthur et Bentancourt au top de leur forme, quid de ces joueurs-là?
Écoute, ouais.
Vraie question.
Moi je suis comme toi.
Je rajoute Ramsey dedans.
Ouais, j'ai été très convaincu par la première de Pierrot. Alors évidemment, quand il fait la première journée, on fait doucement avec la culture de l'instant. Mais en tout cas, voilà, la première m'a convaincu sur plusieurs aspects. Tu les as quasiment tous soulignés. Niveau individualité, McKenny, qu'on connaissait pas. Enfin, du moins, moi, je connaissais pas. Et c'est vrai que sa première a été assez dingue dans l'activité, dans la récupération du ballon, dans l'intelligence de jeu. Voilà, c'est vraiment un joueur qui a vraiment impressionné. Donc, je suis curieux de le voir dans les prochaines journées, les prochains matchs. En tout cas, voilà, il y aura deux tests. Là, si je ne m'abuse, il va jouer la Roma et le Napoli.
Oui.
On va avoir quand même, on va dire des prémices de ce que peut être cette Juve de Pirlo, même si on est encore au tout début de saison. Avec la préparation a été plutôt rapide hein, en vue du contexte de la pandémie, mais en tout cas la première était très bonne, ça fait quasiment aucun doute. En tout cas moi ce que j'ai vu, c'est vraiment une équipe qui était enthousiaste, et ça c'est ce qui différencie un peu de la lutte de Sarri, c'est que dimanche contre la Samp, j'ai vu une équipe qui avait envie, qui se battait. T'as souvenir Ramsey, c'est son meilleur match probablement depuis son arrivée à la Juve, un joueur qui n'a jamais rien lâché, qui s'est battu, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a été très actif dans le pressing. Enfin, pour moi, c'est le meilleur match de Ramsey à la Juve. Il y a plein d'autres bons points, comme Kulusevski, comme Ronaldo, évidemment, qui a fait son match, même s'il a été moins bon que d'autres de ses coéquipiers. Même Bonucci, qui a eu quelques périodes de turbulence, même avec la nationale, qui n'est pas trouvé bon avec la sélection. Et là, voilà, je l'ai vraiment trouvé bon en meneur reculé, en l'absence d'un joueur comme Pjanic, qui n'est plus là, et on s'oriente quand même vers un duo, vers un double pivot comme l'a dit Pirlo après le match. Donc Bonucci sera amené à retrouver sa fameuse relance, ses fameux longs ballons, et ça a été plutôt convaincant pour une première. Donc très très bonne première de Pirlo. Voilà, à voir maintenant. Je suis très très très, très curieux de voir ce Roma Juve avec Dzeko qui va jouer probablement titulaire, et ça c'est quand même assez drôle quand on pense que Dzeko aurait pu jouer sur Roma Juve de l'autre côté dimanche. C'est dimanche, hein, il me semble, le match.
Oui.
Voilà, c'est ouais, t'auras Dzeko sur le terrain, forcément, on va tous penser au fait qu'il aurait pu être à la Juve. Et le match face à Napoli, qui sera un deuxième gros test pour la Juve de Pirlo, mais la première est réussie, plein de bons points. Donc voilà, assez curieux de voir la suite.
Alors, j'en profite, puisque quand on enregistre en plein milieu de journée, c'est le risque. La Roma a bien match perdu sur tapis vert, c'est officiel. Ouais. Ça a été annoncé. Défaite 3-0, donc. Je suis en train de lire le communiqué.
Incroyable.
Le Giudice Sportivo. Ouais. Voilà, je suis en train de lire. Violation, blablabla, logique, etc. Délibère de sanctionner la Roma avec la punition sportive de la perte du match par 3-0.
Est-ce qu'on est sur une première, peut-être, quand même, à ce niveau-là? Faudra peut-être piocher.
Alors,
dans les...
Il y avait déjà eu sur un match de Sassuolo une défaite, mais c'était pas tout à fait le même cas. Mais sur le cas précis là, c'est-à-dire un joueur pas inscrit... Ouais. Par erreur entre deux listes, moins de 22 et plus de 22, c'est une première.
Donc, quel amateurisme incroyable. Ça risque de faire parler à Rome, hein. Toi qui connais bien l'équipe de Rome.
Oui, bah ça c'est
je
ça,
pense
c'est sûr.
Que des journaux comme Il Romanista ou autre, voilà, ça va
oh,
pas
oui,
mal jaser.
Même le Corriere dello Sport, hein, qui est en conflit avec la Roma depuis un certain temps, va se gêner pour.
Bon, en tout cas, pour la première de Friedkin, on se souviendra que ça aurait été une défaite sur tapis vert contre l'AS Vérone dans quelques années.
Exactement. Ce qui est assez incroyable. Je voulais juste terminer par un truc, Guillaume, puisque what the fuck sur what the fuck, après ce point de règlement, cet amateurisme côté Roma, tu vas peut-être nous glisser un petit mot sur Suarez quand même. On va faire un petit point d'actu sur Suarez.
Ouais, on en fait rapidement, histoire assez dingue. Alors Suarez qui a passé un examen d'italien B1, le niveau les plus simples. C'était la semaine dernière pour signer à la Juve, pour avoir son passeport, parce qu'il est extra-communautaire et la Juve a déjà toutes ces trois cases, trois slots, occupées par d'autres joueurs. Le dernier en date, c'est McKennie. Donc, pour faire signer Suarez, la Juve doit obligatoirement l'obtenir, le passeport italien. Donc, Suarez a passé un examen à l'Université des étrangers de Pérouse. Un examen qui s'est déroulé assez rapidement. Normalement, c'est 2h30. Et c'est vrai que là, ça a été 20-30 minutes. C'est un aller-retour express pour Suarez parce que le matin même, il s'entraînait à Barcelone. Il est parti à Pérouse dans l'après-midi. Il est rentré dans la soirée. Donc, c'est assez rapide.
C'est là que tu vois qu'on n'a pas la même vie, quand même.
Ouais, il l'a obtenu. Et aujourd'hui, donc on enregistre le mardi 22 septembre, on a appris une enquête avait été ouverte. Alors, une enquête qui avait été ouverte en février dernier, en fait, pour être précis, parce que, je cite le communiqué, c'est qu'il y avait des mouvements, on va dire, assez suspects, pas très clean, du côté de l'Université de Pérouse.
On va dire qu'il y avait déjà des soucis, visiblement, voilà, sur qui et comment on pouvait obtenir
exactement
le diplôme.
Et du coup, comme communiqué, et Suarez, on va dire que ça leur a semblé bizarre que Suarez arrive comme ça et obtienne son diplôme assez rapidement. Et ils se sont penchés sur le fait. Et ils ont découvert qu'en fait, les points, les questions, les sujets avaient été donnés avant. Et qu'en fait, c'était une vaste arnaque, une vaste fraude. Et soyons encore plus précis, c'est que selon le communiqué qui a été rédigé aujourd'hui, donc ce 22 septembre, c'est que la Juve qui a organisé l'examen n'est pour le moment pas concernée par l'enquête. Donc ça concerne pour l'instant uniquement l'université et les personnes de l'université. La Juve, selon le communiqué, n'est pas dans l'enquête, n'est pas concernée.
Exactement. Ce qui paraît logique, je veux dire.
C'est précisé que la Juve a organisé l'examen, mais ensuite, c'est pas la Juve qui
a envoyé les questions.
Exactement. La Juve attendait juste de voir le résultat. Mais en tout cas,
tu te rends compte quand même qu'au final, quand même, Guillaume, sur ce dis-moi, truc, quand même, on est sur un transfert qui va pas se faire. A priori, on est d'accord. Et un scandale sur un transfert qui n'aura même pas lieu.
Oui, mais c'est ce qui paraît assez bizarre, Johan, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que quand il a passé son examen, c'est qu'on savait quasiment tous que ça semblait quasiment impossible qu'il ait son passeport à temps. Alors moi, je me demande pourquoi il a passé l'examen. Est-ce que c'est uniquement au cas où le timing pour l'obtention de son passeport soit réduit, ce qui pouvait être possible? Ou alors, et d'ailleurs, c'est l'hypothèse d'autres personnes qui disaient, mais s'il n'a pas signé ailleurs, visiblement non, parce qu'il n'a pas rejoint la Serie A. Mais c'est vrai que ça a été quand même une journée assez dingue. Quand il a passé l'examen, il est arrivé avec son sac à dos, il repart une demi-heure après. Enfin, c'était... Alors que moi, j'ai regardé, les modalités d'examen, B1, et c'est marqué 2h30 d'examen.
Mais j'avais fait les mêmes recherches pour RMC aussi, et j'ai même lu, tu vois, des témoignages de gens qui l'avaient passé, ce truc-là. Et tout le monde disait, oui, c'est un examen de 2 heures, etc., etc. Et
quand ça a duré.
Mais oui, c'est ça, même pas. Et quand tu le vois entrer et ressortir une demi-heure plus tard, tu dis,
mais est-ce qu'on aussi les écoute ou pas?
Ouais, vas-y, profites-en. Ouais, oui, bien sûr.
Les écoutes, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est assez
pour
dingue.
Pour ceux qui ne parlent pas ou lisent pas l'italien, c'est important.
Ouais, exactement. Alors, les écoutes, c'est simple. En fait, c'est le personnel de l'université.
Alors, je précise juste, dans l'enquête, il y a donc la doyenne de l'université de Pérouse. Et le directeur général, il y a l'examinateur, celui qui était en charge de poser les questions et de faire passer l'examen. Et il y avait la personne aussi chargée d'organiser l'examen et donc d'organiser la venue du joueur. Voilà, il y a quatre personnes qui sont écoute et qui dont les écoutes, dont les extraits dont tu vas nous parler sont extraits.
Ouais, donc on a par exemple, je cite, ouvrez les guillemets, il a un salaire de 10 millions d'euros, donc Suarez, il doit passer à tout prix l'examen. Il y a une des réponses, c'est il ne sait même pas conjuguer un verbe, il ne parle qu'un infinitif. Il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a ma crainte, c'est que le journaliste pose des questions à Suarez et qu'il soit en crise. Il ne comprend pas un mot d'italien. Faire passer l'examen à un mec comme ça pendant 2 heures, ce n'est pas simple. Enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose de lunaire, j'ai envie de dire, qui malheureusement arrive en Italie. Voilà, ça, on va dire, ça redorera pas le blason de l'Italie, parce que voilà, une université qui te fait passer un examen comme ça, totalement faux, une bastarna. On va attendre quand même les conclusions de l'enquête, parce qu'on n'est pas, on n'est pas dedans, et on va attendre les conclusions. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même assez lunaire d'arriver à une telle situation. Mais visiblement, c'est quand même une université qui, comme je l'ai dit, était sous enquête depuis février, donc il y avait des activités, pardon, et je cite, hein, qui n'étaient pas très transparentes. Hein, voilà, il cite le pro. C'est assez dingue, mais en tout cas, voilà. J'ai envie de te dire rendez-vous au prochain épisode et rendez-vous au prochain podcast.
Mais est-ce qu'on est surpris aussi, quelque part, Guillaume, je veux dire, pour tous les trucs administratifs, dès que tu es un peu connu, que tu as de l'argent, etc., il y a beaucoup de choses qui sont organisées pour que tu n'es pas à faire les choses comme le commun des mortels.
Écoute, tu sais,
combien de footballeurs n'ont pas de permis et roulent en voiture, ont acheté leur permis.
Tout ce qui est fraude fiscale aussi.
Bien sûr,
sans parler. Et voilà. Pour te spoiler un peu ma vie privée, je te spoil à toi et aux auditeurs, auditrices.
Tu as fraudé fiscalement? Tu roules sans permis?
Pas du tout. Non, mais j'en parlais, tu vois, de ce truc qui paraît à ma compagne, alors qui aime pas trop le foot, mais ça paraissait tellement lunaire. Elle est en train de faire ses études, donc toi, je lui disais, mais c'est fou quand t'as un peu d'argent, quand même, ce qui peut t'arriver. Alors, on ne sait même pas si Suarez, finalement, a été l'acteur principal de la chose. En tout cas, voilà, autour de lui, il y a une agitation médiatique totale.
Il était quand même au courant, vu qu'on lui a envoyé des questions à l'avance.
Et je lui disais, mais c'est quand même dingue, dès que t'as un peu d'argent, du moins dès que t'es connu, tous les passe-droits que tu peux avoir,
soit,
comme tu l'as dit, dans les permis, on peut parler des nombreuses fraudes fiscales qu'il y a en Espagne, hein, par exemple. Hein, il y a eu
avec des amendes bien inférieures au montant qui ont été envoyés dans les paradis fiscaux.
Rappelle-toi les Football Leaks qui devaient faire des grosses vagues, qui ont fait, finalement, voilà, il y a eu un procès récemment de l'auteur des Football Leaks, moi celui qui a révélé tout ça. Il y a eu, alors je crois qu'il s'appelle Juan Pinto, c'est un Portugais. Il y a eu un jugement, mais c'est vrai que tu vois, c'était rapidement étouffé quand même.
Ouais.
Que ce soit on peut parler aussi des intermédiaires de mercato, d'autres agents. Voilà, il y a une partie sombre, évidemment, et c'est vrai, mais c'est dommage. J'ai envie de te dire que ça arrive en Italie aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une affaire qui est une affaire sur un qui est complètement lunaire. Et alors, on va pas se mentir, Johan, c'est pas qu'on s'en doutait, mais quand on a vu Suarez repartir au bout de 30 minutes d'examen,
moi j'ai cru qu'il avait échoué, hein. Tu sais, mais vraiment, quand je l'ai vu ressortir, je me suis dit, après, je l'ai vu, tu sais, lever les pouces, machin et tout, donc je me suis dit, non, il a pas échoué, je pense.
Moi, il y a un tweet qui m'a fait beaucoup rire, l'actualité de Barça, qui m'a fait beaucoup rire, où il disait, bonjour, bravo, vous avez fait votre examen. Voilà, c'était un peu ça, c'est quand même assez dingue. À croire qu'il a dit, quattro formaggi et Margherita, puis il est reparti. C'est quand même un épisode dont on se souviendra, même si ça reste un drapeau en Italie, en tout cas, ils nous ont offert un grand moment d'histoire. Pour le football italien, parce que ça concerne, à dire, un peu le football italien, parce que Suarez devait venir à la Juve. J'ai envie de te dire, heureusement, la Juve n'est pas sous enquête, visiblement, si on se réfère au communiqué. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de tellement lunaire qu'on a le droit quasiment d'en rire, parce que même les écoutes sont assez fantastiques, entre guillemets. Donc, on a bien fait de finir ce podcast complètement lunaire.
Et ce qu'on peut dire, Guillaume, quand même, c'est que pour une semaine de reprise, on est quand même sacrément gâté.
Diawara, Suarez.
Ouais, tu dis, qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année? Parce que,
écoute, est-ce que c'est vraiment ça qu'on aime le football italien? Finalement.
Ouais,
Je sais
pas, pour ça, je suis pas sûr.
Non, parce que là, ça va être du judiciaire. Ouais. Et rappelle-toi, la journée de l'examen, quand Suarez arrive à Pérouse avec le taxi, avec son sac à dos, où les étudiants l'attendent. Dis-toi, derrière tout ça, il y avait ses écoutes. Enfin, c'est quand même complètement lunaire. Et voilà.
C'est les petites victoires que seul le football italien, là, pour le coup, est capable de nous offrir. Ça, c'est.
Pour la bande terre, j'ai envie de te dire.
Ouais,
pour
exactement.
La bande terre du football italien.
Voilà qui boucle, on boucle en beauté, hein, ce premier épisode, Guillaume. On remercie encore une fois quand même les auditeurs et auditrices pour leur fidélité.
Évidemment, on est là. Hein.
Ouais, on a reçu pas mal de messages. Alors, est-ce que le podcast va continuer, etc., etc. Mais bien sûr qu'il continue, ce podcast. On n'allait pas le lâcher comme ça. On rappelle rapidement, hein, Guillaume, qu'on peut te retrouver sur Twitter, Guillaume MP.
Yoann Crochet,
M comme Maillard et P comme Pacini. Les choses sont bien faites quand même, hein, c'est dingue.
Et t'as vu ça, Yoann Crochet comme le capitaine.
C'est ça.
Yoann Crochet sur Twitter.
Et que toi, on peut te retrouver sur Eurosport, du coup.
Et toi, sur AMC.
Et voilà. Et comme ça, la boucle est bouclée également de ce côté-là. Tout est bien fait.
Et vous pouvez nous retrouver ensemble sur Catch WPP.
Voilà.
La vie n'est-elle pas bien faite?
Exactement. Et puis, allez, on le redit pour ce premier épisode. N'oubliez pas de nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcasts notamment. C'est évidemment très important pour que le podcast monte dans les classements d'Apple et soit mis en avant pour auprès des amateurs de foot.
Ce qui est important de dire, c'est qu'on est toujours là. On n'est pas parti. Évidemment, on a une vie professionnelle qui nous prennent beaucoup de temps, que ce soit toi, Yoann, ou moi, Guillaume. Enfin, je parle comme Alain Delon à certaines personnes. Mais on est toujours là. On va faire encore des podcasts. Ça peut arriver un jour de gros match, après un débrief, une info mercato, un entraîneur viré. On sera là et on vous lâche pas et on vous encourage à encore partager les 5 étoiles, tu l'as dit. Et voilà, nous noter et nous suivre encore et encore.
Exactement. Et comme le disaient les compositeurs classiques Didier Morville et Bruno Lopez, Cool Chien et Joe Star, on est encore là. Merci à tous et à très vite.